Il était voué à cela, le Lévi. Reprenez tout ce que la Torah enseigne à propos du Lévi. Et l'enseignement du Maharal, d'ailleurs, dans un autre livre, dit « Le Lévi, c'est celui avec qui on n'est pas seul, à côté de qui on n'est pas seul, celui qui accompagne. Le compagnon dans le sens étymologique du terme. Enfin, le grand problème, c'est la solitude. Qu'est-ce que c'est un Lévi? C'est quelqu'un à côté de qui on sait qu'on n'est pas seul. Et il est Lévi pour tout Israël, et non pas pour la tribu de Lévi seulement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Liviat Hen, c'est Lévi, celui qui accompagne. Kim, mi sheu efker, gamken, kemo shei ator. On continue. Uma, she atora y efker, le fait que la Torah c'est efker, ça veut dire, vous rappelez de l'analyse unanime, anonyme, okay, non seulement indifférenciée, mais appartenant gratuitement à tous, a priori. Les fiches à la Torah, enam et olamazé, c'est parce que la Torah n'est pas de ce monde-ci. C'est là qu'on va aborder la question du monde à venir. La Torah, c'est la vérité de l'ordre du monde à venir. Elle nous est donnée en cadeau pour nous aider. Ça s'appelle un viatique, je crois en français. Pour nous aider à trouver la route qui mène au monde vrai. Et donc, puisque la Torah n'est pas de ce monde-ci, elle n'appartient à personne en particulier dans ce monde-ci. C'est-à-dire que ce n'est pas une sagesse qui vient de la terre, c'est une sagesse qui vient du ciel. Alors, il s'attache à cette nature de la Torah révélée d'être efker par rapport à Olam Hazeh. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ce n'est pas comme la philosophie qui est la production intellectuelle de celui qui l'a produit, du génie de tel ou tel philosophe. Alors on peut dire, la philosophie de Descartes, c'est Descartes. La philosophie de Spinoza, c'est Spinoza. La Torah, c'est la Torah. Parce qu'elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Elle n'appartient pas à un propriétaire d'en bas. Elle est donnée aux gens d'en bas. Alors, donner, c'est donner à tous. Bon, on pourrait le dire dans beaucoup de vocabulaire, mais je crois que l'idée est suffisamment simple et pour être bien comprise, il faut bien y réfléchir. Okay. Je reviens peut-être. Efker, ça veut dire, dans ce sujet, sans propriétaire légal. Efker, ça appartient à tous. Je vous donne un exemple qu'on raconte dans un livre qui s'appelle Réhoubéni, prince des Juifs. Vous connaissez ce livre-là? Où on décrit Réhoubéni, prince des Juifs. On décrit un profil, une identité très puritaine d'un homme de vertu, très strict. Et puis, c'est dans une petite bourgade de l'Europe centrale, il fait très froid, c'est en hiver. Il est à sa fenêtre et puis il voit, sous la neige, un voleur s'approcher. Il y avait le tas de bois, des fagots de bois devant la porte, le bois préparé pour le poêle. Et puis il voit le voleur prendre du bois. Le voleur s'aperçoit que quelqu'un le regarde et se sauve. Alors le juif, du haut de la fenêtre, crie « Efker, Efker !» Ça veut dire « Tu peux prendre, ça appartient à tout le monde. Okay. » Vous voyez un peu que ça veut dire « Efker ». Et, bon, il n'y a pas de propriété littéraire de la Torah. Et on peut accuser personne légalement de plagiat au niveau de la Torah. C'est pas joli, va nous dire la Torah. Okay. C'est quelqu'un qui n'aime pas la délivrance. Mais légalement, on ne peut pas l'accuser, parce que la Torah appartient à tout le monde. Seulement, on sait que ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Il s'est approprié sans dire merci à celui de qui l'a reçu. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est un peu les exemples que j'ai donné tout à l'heure. Je vous ai donné l'exemple du mensonge. Okay. La Torah dit que ce n'est pas bien de mentir. Mais bon, tu as menti, tu avais peut-être des raisons, on va voir de quoi il s'agit. Mais a priori, elle ne dit pas qu'il ne faut pas mentir sinon on est en enfer. Tout le monde sera en enfer. Est-ce que c'est clair? De la même manière, on donne un autre exemple encore plus profond. La Torah n'interdit pas l'onanisme. Il n'y a pas une interdiction de l'onanisme. Mais la Torah nous explique que c'est très mal. Okay. Parce que si elle interdisait, mais vous imaginez le nombre de consciences qui seraient en faute. Okay. Je pense que c'est clair, il faut être honnête. Okay. Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Okay. Alors, ce n'est pas une législation légale de type la loi romaine. Qui est strict légalement, mais que tout le monde viole. Hein? Par exemple, la Constitution française décide que en France on est monogame, personne n'est monogame. Hein? Tandis que la Torah permet la polygamie. On n'est pas dans une société où c'est possible, hein? Et c'est anormal. Si la Torah l'a permise, elle sait ce qu'elle veut. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mais elle nous enseigne qu'il vaut mieux être monogame. C'est un niveau supérieur. Mais par rapport à la loi comme loi, il n'y a pas de loi qui interdise la monogamie, la polygamie. Chez les Ashkenazim, il y a déjà 1000 ans, Rabbeinu Gershom a pris une décision à cause de problèmes qui étaient de problèmes de société. Okay. Mais, et nous savons très bien, que le monde serait plus normal si la Torah était appliquée comme elle est, sans tenir compte... ce sera peut-être ça les temps messianiques, où le monde sera à un niveau tel que c'est la Torah comme elle est qui pourrait être appliquée, sans tenir compte des contraintes de chaque temps. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Comme j'ai expliqué dimanche, pour ceux qui étaient là, pendant ces 2000 ans d'exil, nous aurions été, si j'ose dire, condamnés à une sainteté un peu artificielle. Et que la sainteté naturelle, nous ne pouvons la voir que lorsque nous vivons comme nation hébraïque. Mais cette nation hébraïque a encore une... Elle n'a pas encore de constitution, je parle d'Israël. Elle a une série de lois constitutives du temps des Turcs, des Anglais, mélangées avec un peu de judaïsme. Et, vous comprenez ce que je veux dire? Mais si c'était la Torah qui a force de loi, eh bien, nous serions... en vie hébraïque authentique. Et alors là, énormément de problèmes insolubles au niveau de la société contemporaine trouvent leur solution. Par exemple, le drame des veuves de guerre. Vous savez à quel point c'est un drame insoluble, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes pour les veuves. Eh bien, il y a toute une association de veuves de guerre qui ont demandé que la Knesset vote la possibilité de la polygamie, au moins pour les veuves de guerre. Et scandale... chez les humanistes israéliens, quoi, régression, vous avez compris ça? Alors il y a une mise au point de la vision, de la relation, de la vérité à la réalité qu'il faut refaire. Bon, c'est des exemples que je vous donne en passant, mais dans énormément de vous voyez à quel point il nous faut cette Torah du Klal qui concerne une collectivité. Comme j'ai dit dans le premier cours, la Torah ne se donne pas à un individu, d'abord. Elle se donne à une collectivité, parce qu'elle est donnée à l'universel, et qu'il y a que la collectivité qui est la délégation de l'universel, pas l'individu. Et les conditions ont été données, d'ailleurs, par le Maharal, et elles sont très claires. Je vais m'arrêter là, mais gardez les textes, on finira le paragraphe demain. Je veux dire simplement cette phrase de conclusion. Il faut arriver... à se faire à l'échelle individuelle correspondant à l'universel. C'est ça, cette modestie dont il parle, qui peut permettre d'atteindre la simplicité. Alors, on se revoit demain.